Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1962, Jean de Florette est le premier volet de L'eau des collines, diptyque romanesque de Marcel Pagnol complété par Manon des Sources. Le roman revient sur le destin de Jean Cadoret, dit Jean de Florette, un citadin bossu qui quitte son emploi pour exploiter avec sa famille une ferme provençale héritée de sa mère. Son installation au Romarins contrarie César Soubéran, le papet et son neveu Hugolin, qui convoitent la terre et surtout la source indispensable à leur projet de culture des œillets. Dans le village fictif des Bastides Blanches, Iltès puis obstrue cette source, transformant une ambition agricole en tragédie. Pagnol associe ainsi un récit rural très concret à une étude sévère de la convoitise, du silence collectif et de la violence sociale, derrière la lumière de la Haute-Provence. Le livre examine les mécanismes par lesquels une communauté peut abandonner un homme à son malheur tout en préservant une apparence de respectabilité. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la source comme ressource vitale et instrument de domination. Dans Jean de Florette, la source ne constitue pas un simple élément de décor ni un prétexte narratif. Elle organise l'économie de la ferme, le rapport des personnages à la terre et la distribution du pouvoir dans le village. Sans eau, Jean ne peut ni assurer ses cultures, ni faire vivre durablement sa famille au Romarin. Avec elle, le domaine devient au contraire une propriété très désirable pour les Soubérans, car Hugolin veut y développer la culture des œillets. Le conflit porte donc sur une ressource naturelle limitée, dont la maîtrise conditionne la survie et l'enrichissement. Pagnol montre que la violence peut prendre une forme indirecte. César et Hugolin ne chassent pas ouvertement Jean de chez lui. Ils rendent son projet impraticable, puis attendent que la fatigue, les dépenses et la sécheresse fassent leur œuvre. Cette stratégie permet aux coupables de présenter la catastrophe comme un échec personnel du nouvel arrivant. La source devient ainsi le symbole d'une information retenue et d'une puissance cachée. Le roman relie avec précision le monde matériel aux choix moraux. Priver quelqu'un de ce qui rend son travail possible revient à décider de son avenir, tout en évitant de reconnaître cette responsabilité. L'eau nourricière révèle alors une logique de dépossession plus vaste que le seul affrontement entre voisins. Deuxièmement, Jean Cadoret face aux préjugés contre le citadin, Jean Cadoret arrive aux Bastides Blanches avec une vision réfléchie mais partiellement théorique de la vie paysanne. Il souhaite transformer la ferme en foyer autonome et mettre son énergie au service d'un projet concret. Sa différence physique, son passé de citadin et ses méthodes nouvelles le désignent pourtant comme un étranger aux yeux de plusieurs habitants. Pagnol ne réduit pas ce décalage à une opposition simple entre intelligence urbaine et savoir rural. Jean possède de la volonté, des connaissances et une capacité de travail réelle, mais il ne maîtrise pas les codes tacites du village, ses rancunes anciennes, ni les rapports de dépendance qui lient les familles. Il croit pouvoir réussir par la persévérance et le calcul, alors que son adversaire agit dans l'ombre avec la complicité du silence local. Cette confrontation met en évidence la fragilité de tout projet d'installation lorsque les conditions sociales sont dissimulées. Jean est moins vaincu par un manque de courage que par une situation dont les règles essentielles lui sont cachées. Le roman évite toutefois de faire de lui un héros sans défaut. Son obstination, nourrie par le désir de prouver sa valeur, aggrave sa vulnérabilité. Cette nuance rend la tragédie plus forte. Les qualités qui pourraient le sauver dans un contexte juste deviennent, dans un milieu hostile, les ressorts de son épuisement. Troisièmement, le papet et Hugolin, une culpabilité graduelle plutôt qu'une méchanceté abstraite, César Soubéran et Hugolin incarnent la convoitise. Mais Pagnol leur accorde une densité psychologique qui empêche de les réduire à de simples figures de méchants. Le papé raisonne à long terme, il veut assurer la continuité du nom Soubéran et donner à son neveu les moyens de réussir. Cette finalité familiale ne justifie pas ses actes, mais elle explique comment il transforme une ambition privée en impératif supposément légitime. Hugolin, quant à lui, est animé par son désir de cultiver les œillets et par son attachement à son oncle. Il participe à la manœuvre tout en laissant paraître une conscience intermittente de sa cruauté. Leur relation illustre une responsabilité partagée mais inégale. César conçoit, oriente et rationalise le plan. Hugolin exécute, profite et hésite sans rompre avec lui. Le roman souligne ainsi la facilité avec laquelle un crime moral se banalise quand chacun n'assume qu'une part de la décision. Les deux hommes se racontent que boucher une source ne constitue pas un acte directement meurtrier, alors même qu'ils observent les conséquences sur Jean et sa famille. Cette séparation entre le geste initial et ses effets permet le déni. La force du livre tient à cette analyse de la conscience accommodante. Les personnages ne sont pas ignorants du mal, mais ils cherchent à en limiter mentalement la portée afin de préserver leur intérêt. Quatrièmement, le silence du village et la fabrication collective de la catastrophe, la tragédie de Jean ne résulte pas uniquement de la volonté des Soubérans. Elle dépend aussi du silence des habitants des Bastides Blanches. Plusieurs villageois connaissent l'existence de la source ou perçoivent les manœuvres qui entourent la ferme. Mais aucun ne donne à Jean l'information qui pourrait modifier son destin. Pagnol fait de cette passivité un fait social majeur, les rivalités entre villages, la méfiance envers les gens venus de Crespin, les liens anciens et la peur de se brouiller avec des voisins plus influents pèsent davantage que la solidarité envers une famille en difficulté. Cette inertie collective rend le mal plus banal et plus durable. Elle montre comment une communauté peut bénéficier du confort de ne rien faire, même sans participer matériellement au complot. Le cadre provençal, souvent associé à la convivialité et à la beauté des paysages, acquiert alors une dimension plus ambiguë. La proximité n'engendre pas nécessairement la protection, elle peut renforcer le contrôle social et l'exclusion. Le roman interroge aussi la valeur du témoignage. Savoir sans parler ne relève pas de la neutralité lorsque le silence maintient une injustice évitable, en donnant une place centrale aux regards, aux conversations et aux non-dits. Pagnol analyse une violence communautaire qui ne repose pas sur une foule agressive, mais sur une succession de renoncements individuels. En dernier lieu, une tragédie provençale où la nature déjoue les rêves de maîtrise. Jean de Florette tire une grande part de sa puissance de la rencontre entre une intrigue très construite et une nature qui demeure indifférente aux projets humains. La chaleur, la sécheresse, les chemins difficiles et les exigences du travail agricole ne servent pas seulement à colorer le récit. Ils imposent des contraintes mesurables qui donnent à chaque décision un prix physique. Jean doit transporter de l'eau, engager des dépenses et lutter contre le temps, tandis que ses adversaires savent que le climat finira par renforcer leurs manœuvres. La Provence de Pagnol est donc double lumineuse et attirante, mais rude, avare et capable de détruire les illusions d'autosuffisance. Le roman ne présente pas la campagne comme un refuge moral face à la ville. Il rappelle que la terre exige des savoirs, des ressources et des alliances, et qu'elle peut devenir le terrain d'une lutte sans merci. Cette matérialité donne à la tragédie une force particulière. Le destin ne tombe pas du ciel sous forme de fatalité pure. Il se construit par l'interaction entre la sécheresse, la cupidité, le secret et la persévérance de Jean. Le style de Pagnol, riche en dialogues et attentif aux usages locaux, maintient pourtant des moments de comédie et de vitalité. Ce contraste évite le pathos uniforme et rend plus sensible la cruauté qui se développe sous un paysage apparemment idyllique. En conclusion, Jean de Florette conviendra aux lecteurs de romans classiques qui recherchent une intrigue lisible, des personnages fortement dessinés et une réflexion morale ancrée dans des réalités concrètes. Il intéressera particulièrement les lecteurs sensibles à la littérature provençale, aux récits de terre et de transmission, ainsi qu'aux drames où un conflit local révèle des mécanismes universels de pouvoir. Sa lecture permet de comprendre comment l'accès à une ressource, ici l'eau, peut déterminer les relations sociales, la valeur d'une propriété et la survie même des familles. Elle offre aussi une analyse accessible mais exigeante de la culpabilité. Le mal ne provient pas seulement de la décision de César et Hugolin, mais de la passivité de ceux qui savent et se taisent. Par rapport à de nombreux romans ruraux idéalisant la campagne, Pagnol se distingue par son refus de réduire la Provence à un décor pittoresque. Son paysage est magnifique, mais il impose la pénurie, l'isolement et une dureté sociale réelle. Le livre se démarque également par la complexité de ses antagonistes, capables de tendresse, de comique et de calcul sans que cette humanité efface leurs fautes. Enfin, il vaut mieux le lire comme la première moitié d'un ensemble Manon, des sources, prolonge les conséquences du drame et transforme la question de la dépossession en une méditation sur la vengeance, le remords et la réparation. Cette architecture donne au diptyque une ampleur rare entre chronique paysanne, tragédie familiale et examen de la justice. Si vous souhaitez soutenir Marcel Pagnol, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.